It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Soyez les bienvenus dans l'édition La Nuit, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Israël prévient que l'Iran ne sortira pas indemne de son attaque. Tsahal va donc riposter, mais difficile de savoir quand et comment cette contre-offensive va se dérouler. Ce mardi, l'armée israélienne a confirmé la mort d'un commandant du Hezbollah. Nous ferons donc le point sur la situation avec notre envoyé spécial à Tel Aviv dans un instant. Un an après l'opération Wambushu, une opération PlaceNet a été lancée sur l'île de Mayotte. L'objectif est de lutter contre l'insécurité et l'immigration sur place. Plus de 1700 gendarmes et policiers sont mobilisés pour une période de 11 semaines. La ministre déléguée chargée des Outre-mer était sur CNews ce mardi, vous l'entendrez. La flamme olympique entame son périple vers Paris. Elle a été allumée ce mardi matin à Olympie en Grèce. La nageuse française Laure Manaudou a été la troisième relayeuse à brandir la torche. La flamme olympique est attendue à Paris pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet. Et enfin, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés 4-1 à Barcelone après leur défaite 3-2 au match aller. Une magnifique performance qui leur permet donc de poursuivre le rêve européen. Il faudra maintenant battre Dortmund pour aller en finale de cette compétition. Toutes les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. À la une donc, le risque d'un embrasement au Moyen-Orient et la contre-offensive promise par Israël qui se fait toujours attendre. Ce mardi, Tsahal a confirmé la mort d'un commandant du Hezbollah pro-iranien accusé d'être à l'origine des attaques menées contre Israël à la frontière libanaise. Après l'attaque sans précédent menée sur son territoire ce week-end, Israël avertit l'Iran. Je vous propose donc d'écouter à ce sujet le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression. L'Iran ne s'en sortira pas indemne.
Alors cette question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'Israël va riposter et quelle sera l'ampleur de cette contre-offensive? Pour le moment, difficile de le savoir. Toutes les dernières informations de notre envoyé spécial à Tel Aviv, Régine Delfour.
Les Israéliens attendent cette riposte de la part du gouvernement israélien. Ils ne savent pas quand elle va avoir lieu ni quelle en sera l'intensité. Mais il semblerait que ce ne soit pas une attaque massive sur l'Iran. Les Israéliens avec lesquels j'ai pu échanger m'ont expliqué qu'ils étaient aux côtés du peuple iranien. Ils estiment que ce dernier est victime du gouvernement des Mollahs. Alors ce devrait être des opérations ciblées comme ce mardi dans le sud du Liban, Tsahal. L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé un commandant du Hezbollah qui aurait tiré des missiles sur Israël. Un petit peu plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a confirmé aussi dans le centre de la bande du Gaza l'élimination de nombreux terroristes. Avec cette riposte, ce seraient donc des opérations ciblées, notamment en Syrie, avec l'élimination, la destruction de caches d'armes et de munitions, mais aussi en Iran, où là, ce seraient des bases militaires qui pourraient être détruites. Les Israéliens avec lesquels j'ai pu échanger m'ont dit que ne pas riposter serait un aveu de faiblesse.
Les Israéliens sont presque tous d'accord, il faut répondre à cette attaque de l'Iran, mais sans toucher les civils. Écoutez ces quelques réactions recueillies à Tel Aviv par Régine Delfour.
Il ne s'agit évidemment pas, pour Israël, de toucher la population iranienne qui est sûrement acquise largement à la cause israélienne. Mais il faudra une réponse.
Concernant la riposte, ici on l'attend, très franchement, pas tant pour tuer des Iraniens. Les Israéliens ont une très bonne opinion de la population iranienne, c'est vraiment le gouvernement. Et on attend une riposte essentiellement parce que si on ne répond pas, ça met une sorte de rapport de force en faveur de l'Iran.
Écoutez, en Israël, on ne se pose pas la question si on doit ou non riposter à l'Iran. En Israël, tout le monde est d'accord dans l'unanimité qu'il faut répondre et réagir face à l'Iran. On essaye de nous demander à nous de la retenue alors que c'est le moment où il faut frapper l'Iran.
Et dans ce contexte, l'Union européenne envisage d'élargir ses sanctions contre l'Iran après l'attaque contre Israël. Une déclaration du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. C'est le cas également des États-Unis. Je vous propose d'écouter la secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, qui s'est exprimée à ce sujet.
En ce qui concerne les sanctions, je m'attends à ce que nous en prenions des supplémentaires contre l'Iran dans les prochains jours.
Dans le reste de l'actualité, un Français de 31 ans a été récompensé pour sa bravoure après l'attaque dans un centre commercial de Sydney. Une attaque qui a fait 6 morts et plusieurs blessés, c'était samedi dernier. À l'aide d'un poteau, il a affronté sur un escalator l'homme qui a poignardé 6 personnes pour l'empêcher de faire d'autres victimes. Solène Boulan, le récit.
Il est considéré comme l'un des héros de l'attaque du centre commercial de Sydney. Cet homme, posté en haut de l'un des escalators et muni d'un poteau, tente de repousser l'assaillant et son périple meurtrier. Son nom, Damien Guéraud, le Français dont l'Australie salue désormais le courage. Surnommé le héros au poteau, le jeune homme se trouvait avec un ami français le jour de l'attaque. Interrogé sur une chaîne de télé australienne, Damien Guéraud déclare.
On a essayé de l'attraper, mais il descendait les escaliers. On l'a suivi en essayant de lancer le poteau dans sa direction, mais nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réfléchi, c'est l'adrénaline. Ses yeux étaient vides, comme s'il n'était pas là.
Damien Guéraud, dont le visa expire en juillet, a été remercié en personne par le Premier ministre australien.
Vous êtes le bienvenu ici en Australie. Vous êtes le bienvenu pour rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous sommes prêts à l'accueillir en tant que citoyen australien, même s'il s'agirait bien sûr d'une perte pour la France. Nous le remercions pour son courage extraordinaire.
Le geste de Damien Guéraud et de son ami a aussi retenu l'attention d'Emmanuel Macron, qui les a félicités via un message posté sur X.
Condoléances aux Australiens frappés samedi par une attaque dans un centre commercial à Sydney. Deux de nos compatriotes se sont comportés en véritables héros. Très grande fierté et reconnaissance.
Depuis samedi, les hommages se multiplient aux abords du centre commercial, où 6 personnes ont été tuées lors de l'attaque.
Damien Guéraud a donné une interview à la télévision australienne. Il a bien sûr raconté ce qu'il s'est passé lors de son intervention. Il a également donné quelques détails sur l'assaillant. Écoutez son témoignage.
J'ai tenté de le saisir alors qu'il descendait les escaliers. On le suivait depuis l'étage du dessus dans l'espoir de lui lancer la borne, mais c'était impossible. On avait besoin d'un moyen de le capturer. Sur le moment, on n'a pas réfléchi. C'est impossible de penser dans ces moments-là. C'est de l'adrénaline pure. Ses yeux étaient vides, comme s'il était complètement creux à l'intérieur.
On en vient à ce nouveau refus d'obtempérer, cette fois-ci dans la banlieue de Strasbourg à Schiltigheim. Un adolescent de 17 ans a délibérément foncé sur un policier municipal, c'était ce lundi. Il était à bord d'une motocross non homologuée. Le drame s'est déroulé près d'une école à la sortie des classes. Augustin Donadieu.
Le choc est d'une rare violence. Alors que ce policier municipal tentait de mettre fin à un rodéo sauvage juste devant une école de la banlieue strasbourgeoise, il est percuté par le délinquant de la route et projeté au sol.
Donc il lui a fait plusieurs injonctions pour lui demander de stopper son engin. Et ce dernier a délibérément foncé sur notre collègue de la police municipale, le renversant. Et à l'issue de ça, il a pris la fuite et a été interpellé quelques instants après. Notre collègue de la police municipale transporté à l'hôpital.
Malgré la douleur, le fonctionnaire se relève et poursuit le délinquant de la route. Le jeune âgé de seulement 17 ans qui était au guidon de la moto non homologuée sera interpellé rapidement. Selon le syndicat Alliance, ces rodéos sont monnaie courante à Strasbourg et dans ses environs.
On a des vidéos choquantes, hein, où on a même parfois des déambulations de hordes de motos qui circulent dans certains quartiers avec justement ces motos non homologuées. Ça fait effectivement un trouble à l'ordre public assez important.
Le policier percuté a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une suspicion de fracture au poignet et de multiples contusions.
On poursuit ce journal avec cette information. Une enquête préliminaire pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence a été ouverte par le parquet de Paris. Après la mobilisation polémique pro-palestinienne qui s'était tenue à Sciences Po, c'était le 13 mars dernier, une étudiante juive avait été empêchée d'accéder à une conférence. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance faite aux personnes. Un an après le lancement de l'opération Wambushu, une opération Place Nette a été lancée ce mardi matin sur l'île de Mayotte. L'objectif est de lutter contre l'insécurité et l'immigration sur place. 1700 gendarmes et policiers sont mobilisés pour une période de 11 semaines. La ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, était sur CNews ce mardi. Écoutez.
En agissant contre l'immigration clandestine, donc en arrêtant aussi des étrangers en situation irrégulière afin d'instruire leur situation et de pouvoir les renvoyer dans leur pays d'origine. Et puis, en faisant ce qu'on appelle du décasage, c'est-à-dire qu'à Mayotte, vous avez des bidonvilles, pour être très clair, des bidonvilles en nombre. Et ici, dans ce quartier de Mamoudzou dont je vous parle, 228 bidonvilles seront détruits d'ici la fin de la semaine.
Et sur l'île, les habitants sont partagés. Certains pensent que cette opération va permettre de rétablir l'autorité sur place. Et d'autres, au contraire, considèrent que ce n'est pas la bonne stratégie. Thibault Marcheteau, toutes les explications.
À l'annonce de cette nouvelle opération menée par les forces de l'ordre sur l'île de Mayotte, les Mahorais restent méfiants, car leurs attentes sont nombreuses.
On vit constamment dans de la peur, en fait. Du coup, on attend une amélioration de la violence. On attend que les bidonvilles... cesse de s'agrandir au jour le jour.
Ça fait partie du minimum que l'on peut exiger en tant que citoyen maoré, citoyen français, d'être en sécurité.
Principaux objectifs de l'opération, l'arrestation d'une soixantaine d'individus particulièrement recherchés et la destruction de 1300 habitations illégales, insuffisant pour cet habitant.
Le fait de juste viser sur l'insécurité, c'est d'essayer de calmer un symptôme plutôt que de calmer la vraie problématique.
Au total, 1700 gendarmes et policiers vont être mobilisés pendant 11 semaines pour cette opération.
À l'occasion des 80 ans de la libération, Emmanuel Macron s'est rendu dans le Vercors ce mardi. Le président de la République a rendu hommage aux combattants de ce maquis, l'incarnation d'une France indissociable de la République, selon le chef de l'État. La flamme olympique entame son périple vers Paris. Elle a été allumée ce mardi matin à Olympie en Grèce. La nageuse française Laure Manaudou a été la troisième relayeuse à brandir la torche. La flamme olympique va ensuite traverser la mer Méditerranée pour arriver à Marseille le 8 mai prochain et le 26 juillet à Paris. C'est Noémie Hardy qui vous raconte. Regardez.
La nageuse Laure Manaudou est la première française à porter la flamme olympique. Il y a 20 ans, elle gagnait la première médaille française en or à Athènes.
Chère Laure, on est très heureux de lancer les Jeux de Paris 2024 avec toi et avec cette flamme qu'on attend depuis si longtemps. Permets-moi ce petit clin d'œil à un monument de la chanson française. Il y a des millions de Français qui attendent ces Jeux et on compte sur toi pour allumer le feu.
La flamme olympique a été allumée devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra, par la grande prêtresse, comme le veut la tradition antique. La cérémonie s'est poursuivie par des danses. Laure Manaudou marque le top départ vers les Jeux de Paris. 11 000 porteurs se relaieront pour ce long périple. La torche arrivera à Marseille le 8 mai. En tout, la flamme olympique traversera 400 villes, une soixantaine de territoires, dont 5 ultramarins. La flamme olympique est attendue à Paris pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet.
Vive la Grèce et vive la France !
La sécurité, principale préoccupation bien sûr du gouvernement à 100 jours maintenant du début de l'événement. Une réunion s'est d'ailleurs tenue lundi soir et elle portait notamment sur l'identification des personnes radicalisées. Il y en aurait environ 1000 individus concernés et particulièrement surveillés dans la capitale et sa petite couronne. Tous les détails avec Camille Guédon.
À moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture des JO, Gérald Darmanin a donné le cap sur les mesures de sécurité à venir. Alors qu'Emmanuel Macron a évoqué des plans B et C sur le Trocadéro et au Stade de France, le ministre de l'Intérieur a donné ses instructions pour le plan initial prévu sur la Seine. Selon les informations du Parisien, pour lutter contre la menace terroriste qui pèse sur la France, environ 1000 personnes sont actuellement surveillées pour radicalisation à Paris et sa petite couronne. Il a donné l'ordre de continuer le travail préventif afin de pouvoir analyser les personnes radicalisées qui ne seraient pas encore identifiées. Eau, gaz, internet, transport. L'ordre du jour de l'autre réunion portait sur la sécurisation des réseaux de communication. Les résultats de 100 audits ont permis de renforcer la sécurisation physique de plusieurs sites sensibles comme les locaux de RTE, de la SNCF, de la RATP et d'Orange. Le ministre de l'Intérieur a aussi demandé que des équipes soient prépositionnées dans différents tunnels d'accès à ces sites le soir de la cérémonie d'ouverture. Les catacombes ainsi que les égouts feront également l'objet d'une surveillance accrue.
Et enfin, le GIGN fête ses 50 ans. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a donc été créé le 16 avril 1974. Et à cette occasion, nous avons pu suivre les hommes du GIGN dans un exercice d'intervention sur un attentat de masse. Le reportage est signé Thibault Marcheteau et Sandra Buisson.
L'alerte retentit. En croisière sur la Seine, cette péniche pouvant transporter 150 passagers vient d'être prise d'assaut par des terroristes. Un exercice attentat grandeur nature pour le GIGN. Ces hommes doivent libérer la soixantaine d'otages retenus. Ils ont choisi un assaut nautique puis aérien du navire de trois ponts et 125 mètres de long. En survol, un tireur d'élite a trouvé le moment propice pour neutraliser l'assaillant qui était sur le toit du bateau.
Le but étant d'être fulgurant et donc de pénétrer très rapidement par différents points. Comme ça, on s'affranchit du risque de piégeage et du risque de blocage surtout. Et donc, c'est d'arriver le plus vite possible dans les zones de rétention d'otages.
Avant de reprendre le contrôle du navire, les hommes du GIGN ont recueilli le maximum d'informations sur les passagers, le nombre de terroristes, leurs armes, leur localisation, en échangeant directement avec des otages et en utilisant des moyens spéciaux.
On a un pied rouge.
Ok, il est neutralisé.
Ça passe par des chiens, bien sûr, ça passe par des drones volants, drones roulants, par des différents types de caméras thermiques, infrarouges, qui nous permettent, en fonction des circonstances, de nuit, de jour, dans des zones de pénombre, de pouvoir identifier et travailler en sécurité, et surtout de mettre toutes les chances de notre côté.
Les 5 terroristes sont rapidement neutralisés. Il faut dépiéger les gilets explosifs. Le médecin de l'équipe évalue les blessures pour orienter les prises en charge. Les militaires vérifient ensuite une à une les dizaines de cabines et de salles du navire pour s'assurer qu'il ne reste aucun assaillant et aucun otage caché.
Allez, juste avant votre journal des sports, on va regarder ensemble ces images, ces très belles images. Vous les voyez, la joie des supporters parisiens puisque le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Une victoire très facile, 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone au Camp Nou. Vous les voyez tous ensemble réunis au pied de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile. On commente toutes ces images dans un instant, votre journal des sports sur CNews. Et on ouvre donc ce journal des sports avec un sourire. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Il faudra désormais battre le Borussia Dortmund pour aller en finale. Résumé d'une soirée magique, Mathilde Espinas.
La crainte que tout s'arrête soudainement. L'aventure européenne d'une saison, le projet d'une jeune vie. Paris démarre fort, comme attendu. Paris a la possession, mais pas le réalisme, au contraire des Barcelonais.
Attention à ce ballon ! Et Rafinha, de nouveau bourreau du Paris Saint-Germain !
Il faut attendre plusieurs minutes pour voir une vraie réaction. Mbappé se rapproche, Ter Stegen résiste. Tout bascule à la 29e, Barcola subit une faute en dehors de la surface, rouge pour Araujo. Le PSG profite vite de sa supériorité numérique.
On réécarte de nouveau sur Barcola, le centre, Barcola ! Et Dembélé ! Au deuxième poteau qui ressuscite le Paris Saint-Germain !
En seconde période, les occasions se succèdent. Une frappe d'Hakimi, un tir de Fabian Ruiz qui frôle le poteau. Paris est-il maudit ? Peut-être pas.
Pour Hakimi, Vitinha, pourquoi pas tenter la frappe ? Pourquoi pas tenter la frappe ?
Le vent tourne, Xavi doit quitter son banc, Dembélé provoque une faute dans la surface. La suite ne contient aucune surprise.
C'est transformé !
Bien sûr, Paris va encore se faire peur, mais Donnarumma puis Marquinhos s'illustrent. Jusqu'au soulagement final, signé Kylian Mbappé.
Et juste après la rencontre, Ousmane Dembélé, Vitinha et le président du PSG, Nasser El Khelaifi, ont répondu aux questions de notre envoyé spécial sur place. On vous laisse donc les écouter.
Tout le monde y a cru, même si à l'aller, nous avons perdu 3-2. On n'en a pas baissé les bras. On savait qu'on allait marquer des buts ici à Barcelone. Et voilà, un grand travail de toute l'équipe.
On est en demi-finale, on est très très heureuse. Et il faut passer en demi-finale maintenant, mais il faut souligner, il faut donner le mérite parce que le supporter, il nous croit.
Tout le monde veut gagner, tout le monde veut vraiment qualifier pour demi-finale. J'étais vraiment un grand entraîneur, le meilleur entraîneur au monde. On a vraiment les joueurs, l'équipe. On a été une équipe, vraiment, on a montré. Vraiment, on veut aller le plus loin.
Et à la fin du match, les supporters du PSG qui ont laissé éclater leur joie, les fans des Rouges et Bleus, se sont amassés autour de la place de l'Étoile dans le 8e arrondissement. Voilà pour ces belles images. Ça fait du bien de voir la joie des supporters parisiens dans les rues de la capitale. Allez, on va parler de l'autre quart de finale de la soirée. Le Borussia Dortmund s'est donc qualifié après sa victoire 4-2 face à l'Atlético de Madrid. L'ouverture du score de Julian Brandt à la 34e minute. Isaac Madsen double la mise pour les Allemands 5 minutes plus tard. Après la pause, Mats Hummels dans un premier temps contre son camp, puis Angel Correa permettent aux Espagnols de revenir au score. De partout à 20 minutes de la fin du match, Dortmund ne lâche rien. Niklas Füllkrug marque le but du 3-2 à la 71e minute, avant que Marcel Sabitzer n'offre la victoire aux jaunes et noirs à 15 minutes du terme. Les quarts de finale de la Ligue des Champions continuent ce mercredi. Deux affiches, le Bayern Munich face à Arsenal et Manchester City qui reçoit le Real Madrid. Un choc qui sera d'ailleurs à suivre sur Canal Plus Foot. Un match entre Anglais et Espagnols qui fait rêver, une confrontation entre deux favoris pour la victoire finale. Avec un nul 3 buts partout à l'aller, tout reste ouvert. Pep Guardiola a affiché sa détermination en conférence de presse.
Je respecte beaucoup, mais ce amour, non. Que sea la rivalidad, que le quiera ganar, que le quiera hacer bien, como ellos quieren, pues es normal, a veces ganas, a veces pierdes. ¿Qué quiero hacer? Que el equipo, esto, que sea el mejor posible, hacer lo mejor de nosotros mismos.
Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Israël prévient que l'Iran ne sortira pas indemne de son attaque. Tzal va donc riposter, mais difficile de savoir quand et comment cette contre-offensive va se dérouler. Ce mardi, l'armée israélienne a confirmé la mort d'un commandant du Hezbollah. Nous ferons donc le point sur la situation avec notre envoyé spécial à Tel Aviv dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne et je vous dis donc à tout de suite pour une prochaine édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.